Les gitans ont toujours dit n'importe quoi aux écrivains et aux journalistes. Ils les ont toujours fait balader.
Cette phrase est de Tony Gatliffe, le cinéaste né d'un père kabyle et d'une mère gitane. Un réalisateur dont la filmographie et ses racines témoignent d'une connaissance du monde gitan, qu'il s'agisse de Lachodrome, Gajodillo ou encore Swing. Le thème de son dernier film, Liberté, avec Marc Lavoine et Marie-Josée Croze, est emprunté à l'histoire des Roms en France sous l'occupation. On suit un groupe de gitans qui arrivent dans un village où ils ne sont pas si bien accueillis qu'avant la guerre. Victimes d'une loi de Pétain obligeant les nomades à ne plus se déplacer, ils seront internés dans un camp. Entassés avec d'autres Roms, ils ne devront compter que sur une aide extérieure, celle du maire de la commune où ils venaient régulièrement. Car Gatliffe a voulu rendre hommage aux justes, en n'oubliant pas les collaborateurs et ceux qui ne faisaient rien. Dans ce film Liberté, le souffle poétique n'empêche pas Gatliffe de poser un regard documentaire sur cette période encore trouble de l'histoire française. En 1943, année qu'a choisi Gatliffe pour sa fiction, il y avait une quarantaine de camps d'internement gérés par les autorités françaises, des camps qui n'ont été fermés qu'en 1946. Après la libération, il y avait encore des gitans ainsi que leurs ex-bourreaux internés eux aussi. Nous avons rencontré Tony Gatliffe à Montpellier lors d'une avant-première de son film.
Depuis 1912, la société française avait instauré un carnet qui s'appelle le carnet anthropométrique. C'est un carnet d'identité draconien. C'est-à-dire que c'est impossible de passer à côté, quoi, à côté d'une rafle. Et donc ce carnet anthropométrique, il y avait des photos de face, de profil, où il y avait de tout sur la famille, le petit enfant, tout, le nombre de familles, le nombre de véhicules, le numéro de véhicules, les chevaux, tout était dedans. Et donc ce carnet anthropométrique, il y avait des visas dedans, centaines de pages ou plus, des petits visas comme ça, qu'il fallait tamponner à chaque fois que vous sortiez dans d'une agglomération, que vous rentrez dans une autre, par le préfet, par la police, par la gendarmerie ou par le maire. Et donc, à travers ce carnet, ils savaient toujours où ils étaient. C'est-à-dire, avant, ils étaient nomades. Hein. C'était nomades, quand ils partaient dans les forêts et tout. Mais avec ce carnet, ils savaient toujours d'où ils venaient. Donc quand il y avait un meurtre, un vol, n'importe, tout de suite ils allaient les voir pour voir ce qu'ils ont fait, ils étaient pour les soupçonner en tout cas. Donc ce carnet anthropométrique, c'est le début de la ségrégation qui allait se passer en 1940 quand les Allemands sont arrivés. Quand la France a été anéantie par les Allemands, que ça a duré, je ne sais pas, quelques jours, un mois même pas. Après, tout de suite, la France a dit ciao. Il y avait après les maréchal Pétain. Et il n'y avait pas encore tout à fait. Il y avait un peu de camps de concentration dans le Midi, ici, avec les anciens Espagnols, les anciens camps qui avaient recueilli les Espagnols. Donc, ils avaient mis déjà les gitans là. Et puis après, ils ont fait des camps un peu partout, dans toute la France. Mais ils les ont fait d'une froideur incroyable. C'est-à-dire que les Allemands ne leur ont pas demandé. Hein. Parce que les Allemands étaient occupés à les liquider en Allemagne. Ils n'avaient pas demandé ce plan.
Le président de la République française décrète. Article 1. La circulation des nomades est interdite sur la totalité du territoire métropolitain pour la durée de la guerre, sous peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans.
Et donc, ils ont commencé par mettre partout, dans toute la région des camps, et ils les ont fabriqués d'une façon très très méthodique. Des hangars sans chambre, c'est-à-dire juste des lits et des fois pas de lits, avec du bois pour le sol, des fois, dehors c'est de la boue, du toit, il n'y a pas d'isolement, c'est-à-dire qu'il fait très froid en hiver, il y avait des fois, plus tard il y avait des haras, des choses comme ça, il n'y avait rien pour manger, et ce qui était formidable, c'est qu'ils ont pris les clôtures des animaux qui existaient à l'époque. C'est avec les clôtures, les barbelés qui étaient faits pour les animaux. C'est comme ça qu'ils ont commencé par les encercler pour faire les grillages, les camps, les fils de fer barbelés, parce que c'était, ils étaient fabriqués pour les moutons ou pour empêcher les vaches d'aller quelque part, comme aujourd'hui. Et donc, c'est dès le départ qu'ils ont voulu les anéantir, même avec la collaboration de l'Allemagne. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, ils étaient d'accord. C'est d'accord pour vous faire quelque chose. Ils ne les ont pas tous envoyés en Allemagne. Ce n'était pas le but. Le but en France, c'était qu'il n'y ait plus aucun nomade. Dès qu'un nomade était quelque part, ils l'amenaient, donc un gitan, ils l'amenaient dans un camp qui était dans la région. Ils les gardaient avec des gendarmes ou des douaniers. Et ça, depuis 1940 jusqu'en 1943. Et ils sont restés dans ces camps jusqu'en 1946. En 1945, il y a eu la libération. De Gaulle marche sur les Champs-Élysées, c'est la libération de Paris, 1945. Et ils ont, ils ont profité pour ne pas les sortir de ces 40 camps, ils sont restés, 45, et ils ont mis avec eux tous les miliciens, les collabos, et les gens qui ont fait du marché noir, et ils les ont mis dans ces camps, avec les gitans. Donc ce qui fait que les gitans étaient avec leurs ennemis qui les ont déjà arrêtés. Et ils les ont gardés jusqu'en 1946. 46, la guerre était finie pendant un an. Tous les 40 camps. Et à un moment, ils les ont sortis sans indemnité, sans les guider, sans rien du tout. Donc voilà, la volonté de la France était celle-là. C'était, à mon avis, et je suis persuadé que je ne suis pas le seul, avec, il y a aussi les historiens, les ziganologues et tout ça qui sont très forts, c'est à mon avis, ils étaient sur la voie de les supprimer. Pas comme les Allemands, pas les chambres à gaz, c'était l'Allemagne. Mais bien qu'il y avait quand même qui sont partis hein, dans les chambres à gaz en Allemagne. Hein, certains, il n'y en a pas beaucoup, mais certains sont partis de France et du nord de la France. Mais si la guerre avait continué encore pendant 3 ans, il n'y aurait plus aucun gîte en France. Parce qu'ils les auraient exterminés, sûr.
Vous courez un grand danger si vous continuez à parcourir les routes.
C'est la guerre.
C'est votre guerre. Nous, on n'a jamais fait la guerre.
Pourquoi tu nous enfermes comme des chiens ?
Pour débarrasser la France de sa vermine.
Je me demandais si vous aviez vu des documents et notamment des photos, parce que quand on voit, quand on arrive dans ce camp, on a l'impression qu'on a d'abord une photo et après vous faites des travelling comme ça sur des gens qui ne bougent pas. Est-ce que ça fait référence à des documents que vous avez vus ?
Oui, parce que de cette époque-là, il ne reste que des photos. Et malheureusement, ce sont des photos prises, pas par des amis, prises par les gendarmes ou par les nazis. Et donc, la seule document qu'on a, c'est ces photos-là. Et donc, tout de suite, quand je me suis dit, je vais filmer un camp, il fallait surtout pas filmer un camp comme on filme Auschwitz ou comme on filme un camp en France. Parce que c'était comme ça à l'époque. C'était, ils leur tapaient dessus. Ils leur tapaient dessus, il y avait des chiens, il y avait des schlags comme ça. Ils leur donnaient pas à bouffer. C'était horrible. Hein. C'était vraiment horrible. Et donc, ça se sentait mauvais sûrement parce qu'il y avait des gens très malades et tout ça. Et donc, il ne fallait pas faire un film comme ça, il fallait être public avec la mort, avec les gens, avec la souffrance des gens. Il faut être public. On ne raconte pas. C'est pas de la photographie, c'est pas de l'art. C'est de la témoignage. Quand quelqu'un veut faire de l'art avec un camp de concentration, il faut l'arrêter tout de suite. Il faut l'arrêter, l'amener dans un camp, dans un truc de psychologique qui se remette. Parce qu'il n'y a pas d'art. Non. Quand vous dénoncez dans les massacres des Hutus, on ne peut pas faire dans les massacres des Hutus de l'art. C'est pas possible. Celui qui le fait, il est fou. Par contre, le témoignage est fort. Il faut témoigner, c'est tout.
Calmez-vous!
C'est pas un film comme ça pour venir en juge, ou pour venir condamner, ou pour venir demander des comptes. Absolument pas. Surtout pas. Parce que qui on est pour tout d'un coup aller juger l'acte d'un pays qui était en 1940 et qui était aussi en collaboration avec les Allemands? On n'est pas là pour juger, c'est pas le but du tout. Mais par contre, on est là, un film est là, et puis il y a aussi des populations qui sont en train de se battre pour ça, on est là pour faire reconnaître ce qui s'est passé. C'est-à-dire soulever le couvert du trou noir où était l'histoire, cette histoire des Tziganes partout dans toute l'Europe et là, surtout la France, pour dire et pourquoi vous n'avez pas parlé de ces gens. Et c'est ça le but, c'est uniquement ça. Donc ça veut dire, c'est la scolarité, c'est l'éducation nationale, qu'il va falloir qu'il s'explique, qu'il amène, qu'il répare, disons, ça, qu'il fasse le minimum pour que cette histoire existe. Et une fois que cette histoire existe, c'est déjà une reconnaissance par rapport au peuple rom, ou gitan. Les gitans, ici, là, ceux qui sont d'Arles ou de Montpellier, c'est pareil. Hein. Ou Montpellier, ou de Perpignan. C'est la même chose. Ils ont autant souffert.
Si ma terre avec cette ruine peut sauver toute une famille, faut pas hésiter.
Tu sais que tu vas avoir tout le village contre toi ? Pourquoi tu fais ça, Théodore ?
Pour faire quelque chose. Juste quelque chose.
Tony Gatliffe s'est donc inspiré de l'histoire du peuple rom pour écrire et réaliser Liberté. Il a mêlé la fiction à des récits authentiques. Ainsi, le personnage de l'institutrice, interprété par Marie-Josée Croze, est une résistante. Théodore, le maire et vétérinaire du village, joué par Marc Lavoine, est lui un homme qui vient en aide aux Roms, quitte à prendre des risques. Sans ces justes, il n'aurait pas pu faire le film.
L'histoire n'existe que parce que c'est juste. Et aujourd'hui, toute cette histoire-là n'existe que parce qu'il y a eu tous ces justes. C'est-à-dire que sans ces justes, ça aurait été une catastrophe. Parce que, d'abord, une catastrophe pour l'humanité. Savoir qu'il y a personne n'a rien fait. Personne n'a rien fait. Donc ça aurait été une catastrophe. C'est que des horreurs. Et non, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des choses. Et ces gens qui ont fait des choses doivent nous donner l'exemple de faire des petites choses. Pas beaucoup, mais un peu. Eux, ils ont risqué leur vie et la vie des leurs. Parce que c'était comme ça à l'époque. Si on vous attrapait en train d'aider quelqu'un, un juif, caché chez vous, il vous fusillait tout de suite et il fusillait votre famille. Donc, ils ont eu un courage incroyable, ces gens-là. Et donc, ces gens-là, ils doivent nous donner exemple aujourd'hui. Comme quoi, il ne faut pas baisser les bras. C'est que le monde est beau parce qu'il y a des gens comme ça. Et donc, c'est pour moi, le film, sans c'est juste, il ne voit rien. Il ne voit absolument rien. Parce que l'histoire des gitans, on peut aller à la télévision et je la raconte, ça suffit. Mais par contre, l'histoire d'un film, il faut reconnaître pourquoi il est là, pourquoi il existe. Donc c'est grâce à ces gens, à tous ces justes, qu'on fait des choses extraordinaires. Il faut avoir un espoir dans la vie. S'il n'y a pas d'espoir, si dans le monde, il n'y a aucun espoir et que les gitans continuent à être maltraités, mourir, ils ont été tués, et puis maintenant ils continuent à être maltraités. Si on raconte que ça, ce n'est pas intéressant. Pas intéressant. Donc on raconte ça pourquoi ? Eux, ils le savent, ça, qu'ils sont maltraités. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des gens qui les ont aidés. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui les aident.
Pourquoi tu nous suis ?
Je suis tout seul.
Il faut que tu la parles chez les tiens.
Dans Liberté, il y a les justes, les Roms, les miliciens, un zeste de Gestapo, mais aussi un personnage d'enfant, orphelin, qui est tour à tour accueilli par la communauté gitane et le maire du village.
L'histoire de petit Claude, elle est compliquée. C'est quelqu'un, c'est un petit enfant orphelin. Il y avait beaucoup d'orphelins au début de la guerre, parce que c'était la débandade la plus totale. Donc tous les Français de toutes les grandes villes sont partis, quitter les grandes villes pour partir sur la route. Donc, quelque part, ils ont rejoint les gitans, au départ. Hein. Et donc, c'était l'exode. Et il y avait plein de morts, plein de gens, plein de Français qui sont morts. Français, Juifs, toutes les populations. Hein, qui sont morts, fusillés par les avions, fusillés par les bandes d'Allemands, tout ça. Donc, il y avait plein d'orphelins dans toutes les campagnes. Ces orphelins étaient pris une fois que c'était fini, et confié par les gendarmes, les autorités, confié à des familles paysannes pour aider les paysans, pour aider les champs, pour aider la culture, pour qu'ils ne soient pas rien, quoi. Et je pense que le cas de petit Claude, c'est autre chose. Je pense qu'il dit trop souvent qu'il ne veut pas aller à l'orphelinat. Et s'il ne veut pas aller à l'orphelinat, c'est parce qu'il ne veut pas se déshabiller. Donc je pense qu'il doit cacher quelque chose. Mais j'ai pas voulu dire quoi. Et lui, il fait le pont entre les paysans bourgeois, les gens qui sont les terriens, sinon, et les tziganes. Il est bien vu partout. Donc lui, finalement, c'est l'homme idéal, la culture idéale, parce qu'il passe par eux. Et il est formidable. Et malheureusement, il, au départ, il a suivi les Roms qui sont dans le film, parce que c'est une famille de 15 personnes, hommes, enfants, bébés et tout, animaux, tout ça, c'est quelque chose de très chaud quand on est orphelin, ou quand on est perdu dans une forêt. Quand on est seul, c'est très chaud une famille. Et donc il les a suivis pour les intégrer, pour être avec eux. Et après, quand ils sont repartis, quand Théodore, dans un lundi, les justes du film sont fait arrêter, après, il n'avait plus personne pour rester. Et donc, il repartait avec l'autre famille qui était sa famille d'adoption. Mais il partait sans savoir où aller, donc il partait vers sa perte, comme les autres.
On ne veut plus d'une bande de voleurs près de chez nous.
Calmez-vous.
Gatliffe nous avait prévenu, les gitans disent n'importe quoi aux écrivains, aux journalistes et ne se dévoilent pas. Dans ses films, le réalisateur nous en apprend toujours un peu plus sur cette communauté du voyage. Il y a toujours la musique omniprésente, le nomadisme bien sûr, et dans Liberté, l'importance donnée aux liens entre enfants et adultes. Quels sont les codes roms que l'on retrouve d'Europe centrale au Mexique en passant par la France ? Gatliffe nous en dit un peu plus.
C'est respecter sa famille, respecter les enfants de sa famille, respecter les petits cousins. Et respecter sa mère, son père aussi. Tu es à New York, ta grand-mère était avec tous tes parents, avec tous tes frères. Et que ta grand-mère, qui a 95 ans, est malade et près de mourir, tu prends l'avion, tu viens. C'est ça l'identité gitane. Parce que tout le monde ne peut pas dire ça. Et donc c'est préserver la famille. La famille, le plan social de la famille, c'est-à-dire il y a quand même un plan social dans la famille, il y a un respect de tout. Quand il y en a, quand dans les cités où des fois ils ne respectent plus rien, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a des fois où ils ne respectent rien non plus, parce que la société a fait de faire devenir les jeunes comme des bêtes. Quand il y a de la drogue partout, ils ne respectent rien. Est-ce que la société sait comment on élève un enfant gitan ? Comment une famille élève un enfant gitan ? Elle ne sait pas. Elle ne peut pas savoir. Elle croit qu'elle vient prendre le petit enfant comme ça, elle l'enferme à l'école. Mais ce n'est pas ça. Il y a un code, il y a quelque chose, il y a tout. Ce n'est pas une bande, attention. Hein. Ce n'est pas une communauté, comme une bande organisée, ce n'est pas ça. Mais avec une culture, ils ont une culture. Et cette culture est très, très forte. Parce qu'elle date du Moyen-Âge, patriarcale. Elle date d'il y a très, très longtemps. Parce que la culture gitane, elle est pareille dans le monde entier. C'est-à-dire, un gitan d'ici, de Camargue, peut reconnaître un gitan du Mexique, parce qu'il y en a. Ils ont les mêmes choses, les mêmes codes. Donc voilà, on ne va pas pour dire comment bonjour, comment vous vivez. Ils ne vivent pas différemment.
Lors de cet entretien, Tony Gatliffe, d'origine kabyle et gitane, en a profité pour donner son avis sur le débat de l'identité nationale. Au cinéma, les personnages sont incarnés par des acteurs et on le sait, l'image véhicule des stéréotypes, voire des clichés. Pour ces personnages de français, comment s'est opéré le casting ?
C'est vraiment une foutaise, mais c'est scandaleux de faire des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai fait ce film aussi. C'est scandaleux de parler de trucs comme ça, parce que moi, pour faire Théodore, pour chercher un personnage pour interpréter Théodore, je ne trouvais pas de français. Non, mais vraiment, parce que c'était quoi le français de l'époque de 1940 ? Comment il était ? Comment ? C'était comment ? Il était comment ? Donc j'ai cherché partout, je ne trouvais pas. Il y avait plein d'acteurs qui étaient tous un peu arméniens, un peu juifs. Il n'y avait pas de français. Et donc tout d'un coup, je me suis dit, mais ils étaient comment les Français en 40 ? Et j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Enfin, quand j'ai fait la même chose qu'un cinéaste qui veut faire un film sur les bohémiens, et qui, tout de suite, il voit les gravures des bohémiennes avec leurs cheveux jusqu'à là, sans foulard, évidemment, alors qu'elles avaient toujours un foulard pour dire qu'elles sont mariées. Et donc, sauvage comme ça, les lèvres comme ça, la boucle d'oreille, et dire, voilà, ça, c'est la bohémienne. C'est la folklore, quoi. Et donc, je me suis dit, moi aussi, je dois avoir, il faut que mon personnage doit avoir quelque chose de Pierre Freinet, quelque chose de Maurice René, quelque chose de Jacques Charrier, Gérard Philippe. En fin de compte, j'étais en train de faire du folklore. Parce que moi, j'ai vu les Français, quand j'étais en Algérie, je les ai vus au cinéma. Et donc, pour moi, les Français ressemblent à des gens que j'ai vus dans les cinémas, dans les films, en noir et blanc. Et c'était cela. Un Français, pour moi, c'est Gérard Philippe. Donc, ça ne peut pas être Sarkozy. Pour moi, il n'est pas français, ça. Non, c'est vrai. Quand on est cinéaste et on se fait un casting, on ne prend pas Sarkozy pour faire un français. On prend De Gaulle à la rigueur.
C'était un entretien avec Tony Gatliff, réalisateur de l'excellent film Liberté, sur les écrans le 24 février. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande Les Tziganes en France, 1939-1946, de Denis Péchanski, aux éditions CNRS.